Nous ne pouvons que nous féliciter de nous retrouver si nombreux pour cette fête locale de lutte ouvrière. Je ne sais pas compter, mais je crois que ça doit être la 11e. Et cette fête a un caractère particulier, parce que nous commémorons le 100e anniversaire de la Révolution russe. Quoi qu'en disent tous les commentateurs et autres intellectuels autoproclamés, il y a 100 ans, les travailleurs, les exploités, les ouvriers et les paysans pauvres ont fait une démonstration essentielle. Après avoir renversé une des plus féroces dictatures d'Europe, celle du tsar Nicolas II, les ouvriers s'emparaient du pouvoir et créaient leur propre État, un État ouvrier. En quelques semaines, des mesures révolutionnaires transformèrent radicalement la Russie. Expropriation des grands propriétaires fonciers et partage de la terre. Contrôle ouvrier sur la production des grandes industries. Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Fin de la diplomatie secrète et paix immédiate. D'autres mesures transformèrent la vie quotidienne, en particulier celle des femmes. Avec le droit au divorce, l'union libre reconnue, le droit à l'avortement. Comme le disait Rosa Luxembourg, révolutionnaire allemande, les bolcheviks ont osé. Osé en finir avec le vieux monde capitaliste. Et même si le stalinisme a dévoyé la révolution, nous restons fiers et solidaires de ce que Lénine et Trotsky ont réalisé en Russie et nous continuons à nous revendiquer du communisme car nous, trotskistes, n'avons jamais renié ces idées. Nous reviendrons sur cet événement, vous avez pu le voir dans le programme, par un documentaire et un débat après le repas. Et je vous invite aussi à découvrir l'exposition dans l'espace projection consacré au centenaire de la Révolution russe. Chers camarades, chers amis, depuis son élection en mai dernier, Macron, comme ses prédécesseurs, se met au service des plus riches, de la bourgeoisie capitaliste. Tout autant que Hollande, dont il a été le protégé, et avec la même arrogance et mépris que Sarkozy. Il est le produit d'une période où les plus riches se croient depuis des années tout permis. Depuis son élection, les mesures contre les travailleurs et les classes populaires se sont succédées, avec la baisse des APL, la baisse de l'indemnisation chômage pour les plus de 50 ans, la hausse de la CSG, les lois Macron sur le code du travail, diminuant encore un peu plus les quelques réglementations favorables aux travailleurs. Qui peut croire qu'en licenciant plus facilement, cela permettra de résoudre le chômage? Cela fait 30 ans que les gouvernements ont successivement facilité les licenciements pour arriver au chômage de masse que nous connaissons, avec 3,5 millions de travailleurs n'exerçant aucune activité et près de 3 millions de travailleurs précaires. Les capitalistes se portent très bien. Après une année 2016 exceptionnelle avec 75 milliards de bénéfices pour les entreprises du CAC 40, le premier semestre a encore été meilleur avec 52 milliards. De tels profits se font sur une exploitation du travail toujours plus intense, avec des cadences toujours plus dures, en rognant sur des pauses, en supprimant des postes. Combien de travailleurs en subissent les conséquences par des horaires allongés, par des troubles musculo-squelettiques ou autres? Combien sont licenciés pour inaptitude ou pour quelque autre raison? Dans tous les secteurs, cette exploitation est visible. Ici même, à Reims, dans bien des entreprises, on en a des exemples. Que ce soit Boehringer, un groupe pharmaceutique des plus profitables, avec 2,9 milliards d'euros de profits en 2016 et qui s'apprête à supprimer 70 emplois sur Reims pour les transférer à Lyon, ce qui pour beaucoup de travailleurs sera impossible. Et ce n'est pas le premier plan de suppression d'emplois, puisqu'en 15 ans, les effectifs ont été divisés par 3. Dans la santé aussi, des suppressions d'emplois ont lieu dans le cadre du regroupement des cliniques du groupe Courlancy sur le nouveau site de Besançon. Et que dire des maisons de retraite médicalisées comme les Parentèles, où les personnels sont constamment en sous-effectif, où ils ne disposent pour faire les toilettes que d'une serviette pour 3 patients. De telles conditions de travail amènent les travailleurs à l'épuisement et à des accidents de travail. Dans cette société pourrie qu'est le capitalisme, même la maladie et la vieillesse sont un moyen de faire du profit. Une loi du profit qui amène aussi son lot continuel d'accidents de travail qui pourraient être évités, comme dans cette entreprise de métallurgie, ACI à Isle-sur-Suippes, où un ouvrier a eu la main déchiquetée par une machine dangereuse dont les travailleurs demandaient le retrait. Des accidents du travail, parfois dramatiques, comme ce jeune ouvrier intérimaire qui a perdu la vie en juin dernier dans un silo de cristanol à Bazancourt. Alors même que deux autres ouvriers sont morts dans les mêmes circonstances il y a plus de 4 ans et que l'affaire est toujours à l'instruction. La justice prend donc tout son temps dès lors qu'il s'agit de s'attaquer au patronat. Face aux attaques d'un gouvernement au service du patronat, plusieurs manifestations ont eu lieu depuis septembre. Elles ont mobilisé diversement, mais elles ont eu le mérite de montrer que quelques mois après l'élection de Macron, il existait une partie du monde du travail qui était mobilisée et pas décidée à accepter de voir leurs conditions de vie se dégrader encore un peu plus. Ces grèves et manifestations n'ont pour l'instant pas eu l'ampleur permettant de faire reculer le gouvernement. Face à ces mobilisations, Macron a pour l'instant fanfaronné et étale son arrogance crasse, traitant les manifestants de feignants ou disant aux ouvriers de GMES qu'il ferait mieux de chercher du boulot plutôt que de foutre le bordel. Oui, dans les coulisses, ces sous-fifres s'inquiètent secrètement, comptabilisent les manifestants, se rassurent sur l'état de la mobilisation. Cela nous montre que ce gouvernement n'est nullement serein et qu'il sait très bien qu'une réaction des travailleurs et des classes populaires peut survenir à tout moment. Macron craint la classe ouvrière, même si à ce jour elle n'a pas encore exprimé pleinement sa colère. Il fait tout pour intimider le monde du travail. Dernière tentative en cours, les nombreux procès qu'il laisse engager par les patrons contre des militants syndicalistes. Les prétextes sont totalement dérisoires et mensongers. On en a un exemple à Toyota Valenciennes, où le délégué syndical CGT a été convoqué à la gendarmerie pour un tract soi-disant calomnieux distribué fin août. Autre exemple, avec les 9 militants du syndicat CGT de PS à Poissy, qui, jeudi dernier, passaient devant le tribunal de Versailles, accusés faussement d'avoir séquestré avec violence un cadre en février dernier. La justice a requis des peines de prison avec sursis. Ici, à Reims, on connaît aussi des cas d'attaque contre les militants syndicaux. Que ce soit contre la déléguée sud du personnel de la sauvegarde, que la direction a voulu licencier pour avoir dénoncé les mauvaises conditions de travail et d'accueil de jeunes migrants isolés dans un foyer. Que ce soit le délégué syndical CGT de la boulangerie de l'Europe, menacé de licenciement pour une absence alors qu'il n'avait pas été informé d'un changement de son horaire d'équipe. Que ce soit la déléguée syndicale CGT des parentèles, harcelée et discriminée pour avoir défendu ses collègues et dénoncé les mauvaises conditions de travail dans un article affiché sur le panneau syndical. Que ce soit le délégué syndical d'ArcelorMittal Reims, démis de ses fonctions par la CFDT à la demande de la direction d'Arcelor pour avoir défendu les intérêts de ses camarades de travail. Toutes ces tentatives pour faire taire ceux qui luttent dans les entreprises, n'empêcheront pas le mécontentement de s'exprimer. L'explosion de colère, l'expression du ras-le-bol, se fait bien souvent sans prévenir et surprend tout le monde, y compris les militants ouvriers. Des pans entiers de la classe ouvrière n'ont pas encore engagé le combat. Cela ne signifie pas que les travailleurs aient abandonné ou baissé les bras. Non, le mécontentement et la colère sont là. On le vérifie au quotidien. Mais ce ras-le-bol, ce rejet de la politique de Macron, ne s'est pas encore massivement exprimée. Quelle sera la mesure de trop ou la provocation de trop qui fera exploser cette colère? Nul ne le sait. Ce qui est certain, c'est que la classe capitaliste ne s'arrêtera pas si nous ne l'arrêtons pas, car sa rapacité n'a pas de limite. L'affaire des Paradise Papers, après celle des Panama Papers, révèle comment, en toute impunité, les grandes fortunes organisent l'évasion fiscale de façon industrielle. Bernard Arnault, première fortune française grâce au travail des petites mains du luxe, a ainsi placé des biens dans au moins 6 paradis fiscaux. Tout cela par l'intermédiaire de sociétés écrans basées à Jersey ou aux îles Caïmans, qui permettent au patron de Louis Vuitton Moitié-Nancy de dissimuler ses signes extérieurs de richesse au fisc et aux médias. Une entreprise richissime comme NAC ne paye que 2% d'impôts sur les 7,5 milliards de recettes européennes. Dassault, qui vit notamment grâce aux commandes de l'État, aide ses clients à ne pas payer la TVA sur les jets qu'ils lui achètent par le biais de sociétés écrans à l'île de Man où l'impôt est à 0%. On pourrait multiplier les exemples aussi écœurants les uns que les autres. En 2009, Sarkozy annonçait, vous vous en souvenez peut-être, les paradis fiscaux, le secret bancaire, c'est terminé. Quelle sinistre blague! L'Union européenne s'indigne de ces pratiques? Quels hypocrites! Ils viennent de publier une liste de paradis fiscaux, mais en ont extrait tous les pays européens qui en sont, comme la Belgique, l'Irlande ou le Luxembourg. Il y a quelques années, le milliardaire américain Warren Buffett résumait ainsi la situation. Il y a une guerre de classe dans la société. Et cette guerre, c'est ma classe qui est en train de l'emporter. Oui, le capitalisme accumule de façon toujours plus monstrueusement injuste les richesses à un pôle et la misère à l'autre. Le capitalisme, c'est aussi la guerre. Nous connaissons ou avons connu des guerres un peu partout, même ici en Europe, en Yougoslavie ou en Ukraine. Le Moyen-Orient est depuis des années en guerre, suite aux interventions des puissances impérialistes en Irak, en Syrie, en Libye, rejetant en arrière les populations quand elles ne sont pas tout simplement massacrées, comme en Syrie, où la bourgeoisie occidentale est en train de remettre en selle le boucher Bachar el-Assad après plus de 400 000 morts. Oui, les interventions impérialistes ne visent qu'à protéger leurs intérêts, au mépris des populations qu'elles prétendent défendre. Une enquête du New York Times révélait hier que les civils en Syrie étaient 30 fois plus touchés par les bombardements de la coalition auxquels la France participe que ce que prétendent les rapports officiels. Et que dire de l'Afrique, dans laquelle l'impérialisme français a envoyé 30 000 hommes combattre pour préserver ses intérêts, ceux par exemple de Bolloré, de Total ou d'Areva, tout en soutenant les dictateurs comme Ali Bongo au Gabon ou Idriss Déby au Tchad. Et comment ne pas être encore écœuré par le sort réservé aux migrants qui fuient au péril de leur vie l'enfer de ces pays, vivant dans la rue à Paris ou dans des bidonvilles comme ici à Reims. Dans un pays si riche que la France, on dénombre 576 bidonvilles. Ce sont en tout 150 000 personnes qui sont sans abri, un chiffre qui a augmenté de 50% en 15 ans. Qui peut croire que l'on n'aurait pas les moyens de les accueillir dignement? En fait, c'est la même politique qui est menée contre tous les pauvres et les exploités, quelles que soient leurs origines. Alors oui, les migrants sont nos frères de classe. Comment ne pas être indigné encore par ces images cette semaine de migrants qui fuient la misère et la guerre en Afrique et qui se retrouvent vendus sur un marché d'esclaves dans la banlieue de Tripoli en Libye? Aujourd'hui, au XXIe siècle, alors que nous avons la possibilité de nourrir 12 milliards d'habitants, plus de 800 millions, soit une personne sur 9, souffrent de la faim. Face au saccage de l'environnement, à la pollution qui explose. Les accords historiques sont aussi bidons les uns que les autres, car tous conditionnés aux impératifs de profit de grands groupes capitalistes qui dévastent la planète et en pillent ses richesses. Le pillage des pays pauvres se poursuit. La faim est toujours présente. Les guerres ravagent des pays entiers. Tant que le capitalisme existera, il en sera ainsi. C'est pourquoi nous continuons à nous affirmer communistes et internationalistes, car nous restons convaincus que ce système économique ne peut être celui assurant l'avenir de l'humanité. Nous savons que bien que nous sommes bien peu nombreux à nous affirmer de la sorte, et que bien des renoncements ou trahisons ont participé à créer cette situation. Le parti n'a plus rien de socialiste, et en son sein, certains s'affirment pour un changement de nom. Quant au Parti communiste, après avoir soutenu le stalinisme, il a perdu le reste de son crédit par son soutien au Parti socialiste, montrant qu'il n'avait plus aucun lien avec ses origines révolutionnaires, dont la révolution d'octobre 1917 l'avait paré pendant un temps. Quant à Mélenchon, que l'on devrait plutôt appeler Mélenchon, vu son goût des petites phrases, il n'a rien d'autre à proposer que de faire l'unité derrière sa personne pour pouvoir prétendre gérer les affaires de la bourgeoisie comme Mitterrand, Jospin ou Hollande précédemment. Il est prêt, pour cela, à donner dans la démagogie nationaliste. Ce faisant, il renforce les préjugés chauvins au lieu de les combattre. Alors, nous restons convaincus qu'un parti communiste révolutionnaire renaîtra dans ce pays comme dans d'autres. Il renaîtra comme chaque parti l'a toujours fait sur un mouvement ouvrier puissant, où la classe ouvrière reprendra conscience de sa force. Ce n'est pas la combativité ou l'énergie des travailleurs à changer leur sort qui a fait défaut dans l'histoire. Et nous avons confiance dans notre classe pour demain faire ressurgir une nouvelle génération de militants qui relèveront le drapeau rouge des exploités. Au début de mon topo, j'évoquais la révolution russe. C'est avec la révolution russe que la classe ouvrière a montré qu'elle représente une force révolutionnaire unique et irremplaçable, capable de prendre le pouvoir, de le conserver, pour construire une société véritablement collective, une société sans classe sociale, sans exploitation et sans frontières. Et je voudrais terminer cette intervention par une citation de Léon Trotsky, le dirigeant avec Lénine de la révolution d'octobre 1917 et qui a combattu le stalinisme au nom du communisme. Il écrivait à la fin de sa vie « Ma foi dans l'avenir communiste de l'humanité n'est pas moins ardente, bien au contraire. Elle est plus ferme aujourd'hui qu'elle n'était au temps de ma jeunesse. La vie est belle, que les générations futures la nettoient de tout mal, de toute oppression et de toute violence, et en jouissent pleinement. Camarades et amis, vive le communisme, vive la lutte contre toutes les inégalités et oppressions, bonne fête à tous, profitons de ce moment convivial et fraternel. Père national.